Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Eh bien bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Romain.
Bonsoir Gérald, bonsoir Laurence.
Bonsoir Laurence qui vient d'entrer.
Bonsoir.
D'entrer dans le studio.
Sous les vivas et les acclamations.
Ouais, fourni. Voilà, donc on est de retour en ce 11 février 2015 pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. Et nous retrouvons donc Romain, qui n'était pas la semaine dernière. Nous avions décalé notre heure hétéroclite. Donc Romain est là pour le 97e numéro d'Hétéroclite, celui du mois de février, qui est donc paru mercredi dernier.
Tout à fait.
Et comme à chaque fois, Romain sera là pour nous donner son éclairage sur l'actualité du moment. Voilà. Et aussi en rapport évidemment avec les articles parus dans Hétéroclite. Je n'ai pas salué mon petit Bernardo, mais il a l'air affairé.
Mais oui, il est tout.
Ouais.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bernard. Bonsoir Romain.
Bonsoir Bernard. Bernard qui a la grippe, c'est pour ça qu'il a un drap de lit devant le nez.
Non, voilà. Le rhume.
Non, parce que son mouchoir, on dirait un drap de lit, tu ne trouves pas? Énorme, immense son mouchoir. Voilà, bon, ben oui, un rhume, voilà. De toute façon, il est dans sa cage, donc il est
oui,
pas.
Très bien.
Il est en quarantaine, ça va bien. Du coup, mon petit Romain, le 97e numéro d'Hétéroclite est paru avec une couverture bleue, cette fois-ci. Toujours
signé Cédric Rouillard, on ne dira jamais assez.
On se disait la semaine dernière que justement cette couverture était la bienvenue, elle changeait un peu avec les thématiques un peu sombres des dernières qu'il y a eu, je trouve. Qu'il y avait plus de lumière.
C'est vrai, il y a plus de lumière et en même temps, je ne sais pas si elle est forcément plus joyeuse. Hein.
Oui, certes.
En fait, pour tout vous dire, c'est pas la première qu'on avait choisie. En fait, Cédric m'a rappelé après les attentats du mois dernier en me disant ça serait bien que la couve marque le coup en quelque sorte, sans être dans une illustration trop appuyée, mais trop pas appuyée, mais.
Ce qu'on appelle les liaisons dangereuses.
Liaisons dangereuses, ouais, tout à fait. Mais ça serait bien quand même de marquer le coup. Et du coup, il m'a proposé cette photo où on voit une jeune femme pensive devant une machine à écrire.
Une vieille machine à écrire, des années 50.
Du coup, avec cette explication, je trouve la couverture encore mieux.
Oui, voilà. C'est vrai. Et puis c'est vrai que tout est assez vintage dans cette photo. Hein.
Ouais.
Le miroir, le téléphone années 50. Voilà, c'est très bien. De toute façon, le visuel est parfait, mais aussi l'intérieur est génial. Alors, dans le fond de la page, on trouve l'édito de signé Romain Vallet, ici présent. Et l'édito, moi, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Alors, il est en rapport justement avec les événements du 7 janvier. Effectivement, dans cet édito, en fait. Comment dire ? On entend une voix un peu différente de celle qu'on peut entendre depuis le 7 janvier, quoique maintenant elle commence un petit peu à être plus acceptable, je dirais, mais au début, sous la charge émotionnelle, il y a des choses qui étaient difficiles à dire ou à écrire. Et en fait, dans cet éditorial, un mois après, tu nous dis en fait, attention, je ne suis pas obligatoirement Charlie, on n'est pas obligé d'être Charlie. Et c'est vrai que je suis Charlie au début, sous la forte charge émotionnelle de l'événement, on avait l'impression qu'il fallait choisir son camp, et si on n'était pas Charlie, on était pour les terroristes. Mais en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça, et ton éditorial l'est. On peut ne pas être Charlie sans toutefois soutenir le terrorisme. Voilà ce que nous dit cet article. Mais j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus, sans entrer trop dans le détail, parce qu'il faut le lire. Mm-hmm. Mais sur le principe, sur l'idée, en tout cas, qui ressort de cet article.
Oui, enfin, c'est pas un édito « Je suis Charlie », mais c'est pas non plus un édito « Je ne suis pas Charlie ». C'est-à-dire que... finalement, j'avais l'impression que on est, enfin, obligé les gens à se positionner d'un côté le camp des je suis Charlie, de l'autre celui des je ne suis pas Charlie, pour X raisons d'ailleurs, dont certaines sont tout à fait écoutables en tout cas. Je trouvais que c'était encore un peu binaire et voilà, qu'il peut y avoir toute une gamme un nuancier en fait de réactions. Et moi-même en fait, enfin, j'ai été aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que chez moi, ça, enfin, cet événement a provoqué des sentiments très très contradictoires, très mêlés, de la tristesse bien sûr, surtout de la tristesse qui prédominait, et en même temps, j'essayais de ne pas tout à fait oublier les critiques ou les reproches que j'avais pu faire à Charlie Hebdo avant l'attentat et que je pense toujours pour certains justifiés. Mais voilà, après, je pense qu'il y a eu le temps aussi, un temps normal d'émotion après l'attentat. C'est humain aussi et c'est logique. Et c'est vrai que on a beaucoup critiqué, par exemple, l'union nationale qu'il y a eu après les attentats. Moi, j'avoue que ça m'a fait du bien, ne serait-ce que sur le plan psychologique, en fait. Moi, c'est 4 ou 5 jours. Voilà, ça a duré du mercredi soir, grosso modo, jusqu'à après la marche de dimanche. Donc, c'est vraiment très peu de temps. Mais même si je savais que c'était juste un moment, voilà, forcément
éphémère.
Je savais que ça n'allait pas durer, mais ça m'a fait du bien. Voilà, ne serait-ce que, je vous dis, psychologiquement, en fait, ne plus sortir un peu du rythme, des polémiques, etc. Prendre le temps de se recueillir, d'avoir du chagrin, etc. Voilà, ça m'a fait du bien. Ce qui n'empêche pas, après, évidemment, que le débat doit continuer. Là, en fait, cet édito, il est parti d'une tribune qui est parue sur têtu.com. Suite aux attentats, Têtu a demandé à plusieurs personnes, a recueilli les témoignages, les tribunes, plusieurs personnes. Alors, je ne sais pas si elles se sont proposées d'elles-mêmes ou si c'était Têtu qui allait les chercher, mais en tout cas, il y a des gens qui ont écrit des tribunes en réaction à ces attentats. Voilà, sur le vivre ensemble, sur les communautés, sur ce que ça disait la société française actuelle. Et notamment, il y a eu une tribune de Cécile Lhuillier, qui est une ancienne présidente d'ACTOP Paris, qui disait « Je ne suis pas Charlie, je ne suis bien évidemment pas Charlie. Charlie Hebdo était devenu un journal raciste, homophobe, transphobe, sexiste et tout particulièrement islamophobe. » Et c'était en quelque sorte une réponse à cette tribune de Cécile Lhuillier, avec laquelle j'étais j'arrivais pas à être d'accord, en fait, tout simplement. Même si je pense que effectivement certaines critiques peuvent être faites sur l'humour de Charlie Hebdo, sur ses articles, sur ses caricatures. Moi, pour tout dire, j'ai lu quasiment chaque semaine pendant 10 ans, et puis là, ça faisait peut-être 3 ou 4 ans que je ne le lisais plus, ou alors quand je le trouvais chez des amis, mais c'est tout, quoi. Je l'achetais plus. Et voilà, donc je comprends toutes les raisons qui peuvent pousser les gens à prendre leur distance avec Charlie Hebdo, même après les attentats. Mais en fait, je pense pas que traiter Charlie Hebdo de raciste, homophobe, transphobe, sexiste, islamophobe, je crois pas que ce soit une bonne idée, dans la mesure où en faisant ça, finalement, on met un peu Charlie Hebdo dans le même sac que des journaux comme Valeurs Actuelles, comme Minute, des journaux extrême droite. On le range un peu dans le camp du mal, en quelque sorte, sans voir que là aussi, il y a tout un nuancier de position. Il y a un gouffre idéologique, je pense, entre des gens qui défendent un choc des civilisations avec l'islam, avec le monde arabe, et des gens comme les gens de Charlie Hebdo, qui étaient avant tout, les dessins qu'on a pu leur reprocher étaient avant tout motivés par une forme d'anticléricalisme qui est critiquable aussi, hein, c'est-à-dire que moi je la trouvais pas toujours très fine, très 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 subtile, mais c'est quand même quelque chose de totalement différent, en fait. En termes d'analyse, je pense qu'on peut pas mélanger tout ça. Voilà.
Moi, je trouve que c'est assez péremptoire quand même ce qu'elle dit. Enfin, on a l'impression qu'elle a aucun recul sur finalement tout ce qu'ont dessiné les illustrateurs de Charlie Hebdo ou tout ce qu'ils ont pu écrire à l'intérieur. Affirmer comme ça, ils sont racistes, homophobes. En effet, moi aussi, des fois, il y avait des choses où, notamment sur les homos, où c'était pas du tout fin. Enfin, voilà, quoi. Mais moi, je trouve qu'elle prend pas du tout de recul dessus, quoi. Enfin, y a pas de second degré, en fait.
Et surtout, y a pas de complexité, en fait, je trouve. C'est-à-dire que moi, je trouve que ce que je dis un peu dans l'édito, c'est que les prises de position de Charlie, elles étaient extraordinairement parfois complexes et même parfois contradictoires, un peu. C'est-à-dire que Charlie a toujours défendu le mariage pour tous, par exemple, mais comme tu dis, sur les homos, effectivement, on sentait bien quand même que c'était une bande de mecs blancs hétéros et que des homos. Alors si il y a au moins un gay dans la rédac de Charlie Hebdo, c'était Laurent Léger, enfin qui c'est toujours Laurent Léger, qui est enquêteur journaliste d'investigation. Mais enfin quand même, on sentait que ça restait quand même très très couillu, hein, entre guillemets. Je me rappelle d'un dessin récent là qui date de quelques mois de Charb sur la GPA. Ça disait la GPA, c'est deux papas, un bébé et une esclave ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était quand même voilà.
Il y a Christine Boutin aussi, c'était Frigide Barjot.
Voilà,
aussi,
nous au mariage de vieille Gwyn. Oui.
Mais ça, c'était marrant quand même. Moi, ça m'a fait rire, je reconnais.
Ouais, mais le problème, c'est que voilà, les seules lesbiennes qu'on voit dans Charlie, enfin, moi, j'ai pas souvenir d'en avoir vu. Ah, puis il y avait Amélie Mauresmo aussi, enfin, les caricatures que Cabu faisait d'Amélie Mauresmo. Elle était toujours présentée comme un gorille, enfin, elle était vraiment. Donc voilà, il y avait aussi, on sentait que c'était des gens qui parlaient de leur point de vue sans forcément se mettre à la place des autres.
En parlant de sexisme, on a beaucoup reproché d'ailleurs à Charlie Hebdo d'être une équipe éditoriale pratiquement exclusivement composée de femmes.
D'hommes. Alors,
en fait, pas assez de femmes, trop d'hommes.
En fait, si on regarde bien, il y avait quand même plus de femmes que ce qu'on a souvent dit, mais c'est vrai que...
Tout dépend si elles étaient là pour servir le café ou si elles faisaient des choses...
de femmes journalistes et dessinatrices. Je pense à Catherine, par exemple. Mais c'est vrai que les figures historiques du journal, ceux qui tenaient le pavé, ceux qui étaient le plus connus, clairement, c'était des hommes. C'était Sharp, Wolinski, Cabu, que des hommes blancs. Pour la plupart quand même assez âgés, hein. Enfin, Cabu et Wolinski n'étaient pas de la...
Avec une certaine gauloiserie.
Voilà. Et moi, j'adore par exemple les dessins de Wolinski. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais gamin. Ça m'a toujours fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ça, même si je partage pas du tout l'obsession de Wolinski pour les femmes. Mais par exemple, j'ai toujours trouvé dommage que dans Charlie Hebdo, il y ait que les dessins de Wolinski. À aucun moment, quelqu'un à Charlie s'est dit « Tiens, ça serait bien qu'il y ait aussi une femme qui puisse exprimer ses fantasmes à elle, ses délires érotomanes comme le fait Wolinski, mais voilà, avec le point de vue d'une femme, ou le point de vue d'un gay, ou le point de vue d'une lesbienne. » Non, il n'y avait que le point de vue de Wolinski, qui est parfaitement respectable entre eux, qui est quand même le point de vue des dominants, enfin dans une société hétérosexiste, c'est le point de vue dominant d'un homme sur les femmes, quoi.
Maintenant, on peut dire qu'on peut tous à divers niveaux, on peut être choqué, avoir été plus ou moins choqué ou avoir ri jaune sur les couvertures de Charlie Hebdo notamment. Et moi, je dis ça parce que je pense ça donc à une femme tunisienne qui me disait que elle ne se sentait pas Charlie. Pourquoi ? Parce que elle avait été quand même, s'était sentie un peu outragée par les caricatures. Mais bon, en même temps, elle me dit on tue pas des gens pour ça non plus.
Non,
je crois que c'est ça le principe. Parce qu'une caricature, où ça va jamais plaire à tout le monde. Nous-mêmes, on a souvent reproché, et souvent à juste titre, d'être choqué ou se sentir humilié par des propos, des caricatures tenues par tel ou tel journaux. On peut se mettre aussi à la place des gens qui peuvent, dans leurs convictions, être choqués, humiliés, etc. Après, il y a d'autres moyens, évidemment. On peut porter plainte, on peut écrire des courriers vengeurs, on peut faire interpeller d'une manière ou d'une autre, mais on ne tue pas pour ça, évidemment. C'est ce qu'elle me disait, en tout cas. Mais elle me disait « je ne me sens pas Charlie », par exemple. Ben voilà, c'est les petites détails que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'il était difficile, au moment de cet état donc, de la France après les attentats, où il y avait donc une forte charge émotionnelle, de dire même ce qu'on est en train de dire ce soir, par exemple, parce qu'on aurait plutôt été accusé d'être dans le camp des mauvais, des méchants, en fait.
Bah, cela dit, on a beaucoup aussi entendu le contre-coup. Mais j'ai trouvé que même dans « Je ne suis pas Charlie », enfin, répondre « Je ne suis pas Charlie » et « Je suis Charlie », je trouve que ça va vraiment répondre à la binarité par une autre binarité, finalement. Enfin, c'est, ce que je dis à la fin, c'est... Je reproche un peu à Cécile Lhuillier dans sa tribune de pas voir les contradictions et donc les complexités de Charlie Hebdo et la complexité elle est pas restituée ni par des anathèmes du type raciste, islamophobe, homophobe, etc., que par un slogan comme « Je suis Charlie » ou « Je ne suis pas Charlie » d'ailleurs. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette espèce d'obligation qu'on a à choisir un camp entre « Je suis Charlie » et « Je ne suis pas Charlie ». Voilà, je me suis pas senti à l'aise avec ça.
Oui, bah, moi j'ai participé à la manifestation comme vous deux et j'ai pas mis de badge ou de
non
de,
mais on n'est pas tous obligés de
je suis Charlie non
on n'est pas tous obligés d'exprimer notre chagrin de la même façon non plus.
Voilà, moi je suis Charlie, non, c'était porteur justement de certaines choses peut-être qui me dérangeaient. Je voulais être là comme vous tous pour être une espèce de communion, je dirais, et puis de voilà, hein, de c'était sous l'émotion, et c'est vrai que ça a fait du bien quand même, cette grande marche, c'était bien. Voilà, du coup, on va continuer de parler évidemment d'hétéroclites, je vais y arriver. Alors, on avait déjà évoqué un sujet qui est celui, entre guillemets, de l'outing. On avait parlé aussi, en l'occurrence, des cadres du FN qui se recrutaient, enfin en tout cas, on disait qu'il y avait beaucoup de représentations homosexuelles masculines en tout cas. Donc on va revenir là-dessus parce que dans l'hétéroclite du mois de février, il y a un dossier, je dirais, complet là-dessus, sur l'outing déjà. Et c'est en relation
complet, avec... je sais pas, mais mais en tout cas qui essaye de poser
de
un
défricher.
Peu, voilà, de défricher un peu et de poser des bases pour la réflexion du lecteur.
Voilà. Et c'était évidemment en rapport avec Florian Philippot, donc qui a été entre guillemets outé par le magazine Closer.
On en parlera après la chanson.
Alors en fait, non, on va pas mettre une chanson. On va continuer les chroniques de Thomas Dupuis. Toutes les semaines, maintenant, on a repris les chroniques de faites par Thomas Dupuis que j'ai enregistrées donc avec lui à Paris. Et donc Thomas Dupuis, qui est l'auteur du livre Les années guépiers, qui est paru Des ailes sur un tracteur. Et cette fois-ci, c'est l'année 1984. Mon cher petit Bernardo, si tu veux nous envoyer, si tu n'es pas encore mort, non, ça va.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Nous sommes de retour avec Thomas Dupuis, donc auteur du livre Les années guépiers, paru aux éditions Des ailes sur un tracteur. Et nous sommes de retour pour la chronique de l'année 1984. Une année 1984 un peu plate sur le plan médiatique.
Oui, mais disons que dans la vie du guépier, le guépier s'est installé en tant que formule hebdomadaire, a commencé à apprendre à vivre sans Jean Lebitou. Donc, c'est mis en place, alors c'est Franck Arnal plus qui va diriger le journal, avec toujours Gérard Vapreau aux commandes financières et administratives, et vont prendre petit à petit de l'importance au niveau éditorial, des gens comme Hugo Marsan, voilà, des gens qui sont là depuis un moment. Mais après, sur le guépier en tant que tel, il y a peu d'événements. L'ambiance sera un peu plus chaude chez Fréquence Gay, par contre, qui va avoir un conflit interne où une partie du CA va être démissionnée et où du coup une partie de l'équipe va faire un putsch et s'enfermer dans l'ancien appartement d'où était diffusée la radio à ses tout débuts avant l'attribution de la fréquence. Donc du coup l'antenne va être coupée, puis petit à petit ça reviendra dans l'ordre des choses. Le conflit va s'envenimer entre la direction et les animateurs, même devant la justice, et il faudra attendre véritablement la fin de l'année pour que Fréquence Gay décide de remettre tout à plat. Donc va s'arrêter pendant un mois d'émettre, histoire de mettre en place une nouvelle équipe, de mettre en place de nouvelles émissions et de repartir de zéro, on va dire. Mais ce sera souvent le cas dans la vie de la radio. Il y aura souvent des heures, des arrêts de l'antenne pendant quelques semaines, puis de nouveaux programmes. Voilà, la radio va quand même se chercher pendant longtemps.
Une difficulté donc à s'entendre aussi au sein de la
radio. Oui, clairement, oui.
L'année 1984, qu'est-ce qui change au niveau donc du rapport entre la politique et les associations LGBT?
Alors, c'est un peu les militants ont peur en 80. Euh, au Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, pardon, en 81, il y a eu vraiment des avancées. On a arrêté le fichage. Voilà, il n'y avait plus les délits pour les homosexuels. Et en 84, il y a une nouvelle vague de descente dans les bars qui se passe assez mal. Si bien que la communauté homo qui avait encore ses entrées auprès du gouvernement via le QR, hein, je le rappelle, c'était la grande association fédération nationale qui regroupait tout le mouvement, on disait pas LGBT à l'époque, c'était avant tout gay, un peu lesbien, qui avait été créé en 79, donc c'était le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, mais c'était vraiment la grande fédération associative gay en France. Le QR va petit à petit tomber en sommeil, mais il est encore là. Et ils font prendre conscience au gouvernement à la Place Beauvau qu'il y a un souci, que les policiers recommencent à faire pas des rafles, mais des descentes assez fréquentes. Et du coup, de faire qu'il y avait toujours la préoccupation d'être de normaliser les relations entre la police et la communauté homosexuelle, de faire qui, je rappelle, avait quand même hébergé les universités d'été homosexuelles à Marseille avant même d'être ministre. Donc de faire décide de créer un poste au ministère de l'Intérieur d'une Madame Homo, on va dire, chargée d'apaiser et de déminer tous les conflits. Elle était chargée des relations avec la communauté gay. Donc ce sera une certaine Aimée Dubos qui va être nommée conseillère technique auprès de Gaston Defferre. Alors, en 84, on va avoir un changement de gouvernement. C'est l'année où arrive Laurent Fabius. Donc c'est une deuxième phase du premier septennat de François Mitterrand. Defferre n'est pas reconduit Place Beauvau, il est remplacé par Jox. Alors Jox, qui, on le verra dans les années suivantes, a une attitude beaucoup plus raide par rapport à la communauté homosexuelle. Voilà, c'était pas toujours très facile. Mais il n'empêche que Jox, quand il arrive, nomme quand même une nouvelle Madame Homo, parce qu'Aimée Dubos a suivi, est partie en même temps que Defferre, et ce sera Marie-Pierre de la Gontrie, qui sera la Madame Homo au sein du ministère de Pierre Jox, Marie-Pierre de la Gontrie, qui d'ailleurs est candidate à la primaire socialiste pour la région Île-de-France aux prochaines régionales, donc qui est toujours là. Et au niveau politique, on notera que c'est une des premières interventions de Jean-Marie Le Pen sur l'homosexualité. Donc Jean-Marie Le Pen passe à l'heure de vérité en février 1984. L'heure de vérité, c'était à l'époque, c'était la grande émission politique qui passait sur Antenne 2. Je crois qu'au départ c'était en semaine et puis ensuite tous les dimanches, mais c'était vraiment un grand rendez-vous tel que ça existait dans les années 80. Politique et qui était très regardé. Donc invité à l'heure de vérité, il va s'insurger un peu, il va dire que certes l'homosexualité n'est pas un délit, mais elle ne doit pas non plus être une valeur privilégiée. Car de toute évidence, et là il précise quand même, elle constitue une anomalie biologique et sociale. Donc l'année 84, c'est les années où Jean-Marie Le Pen va avoir de plus en plus d'audience, va être de plus en plus représenté dans les médias, et on va le voir petit à petit, effectivement, il s'appuiera entre autres aussi sur les questions homosexuelles et puis ensuite sur le sida, pour stigmatiser les populations, pour du coup prendre la défense des bons Français hétérosexuels, blancs et en bonne santé, qu'il faut protéger contre tous les ennemis, qu'ils soient internes ou externes. Voilà, mais c'est sa première déclaration vraiment sur la communauté homosexuelle.
L'année 1984, c'est aussi l'année où la question du sida va émerger de façon prédominante, on peut dire.
Alors, effectivement, les sujets vont se multiplier et surtout, alors ça c'est une analyse a posteriori, l'année 84 va être l'année où enfin tout va basculer et ça va être l'année qu'on pourra reprocher le plus, je pense, a posteriori, aux associations et aux guépiers sur la question du sida. Alors l'année 84, si on repose les choses d'abord, c'est toujours quand même les États-Unis qui sont les plus touchés. Les chiffres quand même commencent à être sérieusement dramatiques. On compte aux États-Unis 6600 cas de personnes malades, 3000 morts déjà au compteur. Et on estime, mais les chiffres sont flous, à l'époque le dépistage, voilà, ça n'existe pas vraiment. Donc on estime quand même que 300 000 personnes portent le virus. Enfin, on ne sait pas si c'est un virus, mais sont infectées. En Europe, on en est à un peu plus de 500 cas. En France, on en est juste en juillet 84, on en est à 180 cas de sida. Donc ça reste relativement peu par rapport à d'autres maladies, mais ça progresse tout le temps. Et ce qu'il faut noter, c'est que sur ces 180 cas, 90% sont des homosexuels, 90% sont des gens qui habitent en région parisienne. Voilà. Donc la question quand même, autant on a joué l'autruche, on n'a pas voulu en parler, autant la question va occuper de plus en plus les colonnes du journal. Et c'est là, alors, si on lit ou relit Le Rose et le Noir de Frédéric Martel, c'est ce qui va lui être reproché, c'est d'avoir lui-même reproché à la communauté et aux guépiers d'avoir totalement minimisé les dangers encourus. C'est à prendre avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire que effectivement, quand on lit aujourd'hui Le Guépier, il y a des articles, il y a des éditos qui paraissent totalement aberrants. On a des éditos de Franck Arnal qui disent « Attention, on nous reproche de pas assez en parler, mais on en meurt encore relativement peu. On a beaucoup plus de risques de mourir en fumant ou en traversant la route qu'en baisant. » Donc, en gros, jusqu'en 84, on a encore beaucoup d'éditos et parfois même de l'Association des médecins gays de l'époque, qui dit « Non, non, allez-y, on n'en sait pas plus que vous, mais allez-y, continuez à baiser, il n'y a pas tant de risques que ça. » Au fur et à mesure quand même, chaque fois qu'il y a ce genre d'édito, alors il n'y en avait pas non plus toutes les semaines, mais il y a régulièrement après des réponses de lecteurs qui commencent à s'inquiéter, qui commencent quand même à dire « Attention, il faudrait quand même regarder les choses en face et il ne faudrait peut-être pas autant minimiser. » Il faut voir qu'en face de ça, même la communauté scientifique n'était pas non plus très consciente de ce que ça allait devenir. En 84 encore, on a le docteur Rosenbaum qui dit, alors je cite, « Le sida ne s'attrape pas facilement. Vous pouvez avoir des rapports avec une personne atteinte et passer au travers de la maladie. » Donc, il y a quand même des discours qui visent, sinon à rassurer, du moins à minimiser et à... Voilà, on n'est pas encore très au clair. 84, c'est le... La communauté est encore... voilà, on ne sait pas trop comment se positionner. On n'assume pas non plus totalement que le sida soit une maladie homosexuelle. 84, c'est l'année de la mort de Foucault aussi. Alors, la mort de Foucault, officiellement, il n'est pas du tout mort du sida. Tout le monde le savait. Il faudra attendre que Guibert le révèle à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie de façon détournée pour que ce soit dit officiellement au grand public. Donc, Foucault, hein, je rappelle, c'est Michel Foucault, qui était le philosophe, le grand philosophe sur la question sexuelle de l'époque, qui était quand même une figure... voilà, alors qu'il n'était pas une figure homosexuelle parce qu'il n'a jamais milité véritablement pour la cause, il n'était pas out à ce niveau-là. Et je le disais tout à l'heure, mais effectivement, Guibert le outera à la fois sur le sida, sur ses pratiques sadomasochistes, etc. Donc donnera une toute autre vision du personnage, peut-être plus humaine d'ailleurs. Voilà, mais c'était une référence de l'époque. Mais 84 voit donc la mort de Foucault, et dans les mois, donc Foucault meurt l'été, c'est en octobre je crois que Daniel Defer, son compagnon, fonde ce qui va devenir l'association AIDE, avec les moyens du bord au départ. En 84, donc on a quand même 3 mois de AIDE sur l'année 84, Guépier n'en parle pas une seule fois. Guépier attendra 85 avant de parler la première fois de AIDE. Alors ça, je ne l'ai pas lu dans Guépier, bien sûr, je l'ai lu dans Le Rose et le Noir. De Fer et les autres de Aide étaient venus voir, avaient convié Franck Arnal et d'autres du Guépier pour commencer à dire il faudrait parler du sida, etc. Ça avait été une fin de non-recevoir à l'époque. Pour autant, à la fin de l'année 84, on commence à avoir, par exemple, l'Association des médecins gays qui finalement revoit un peu son discours et commence à dire que oui, le sida est bien une maladie qui frappe avant tout les homosexuels et que il faudrait peut-être, malgré ce que le docteur Lejeune avait dit avant, donc le docteur Lejeune c'était le président de l'Association des médecins gays, et là, fin 84, l'AMG commence à dire oui, il faudrait peut-être finalement limiter un peu le nombre de partenaires sexuels, il faudrait peut-être faire gaffe. Voilà, donc ça va aller petit à petit. Mais voilà, pour moi, l'année 84, c'est vraiment un peu une année schizophrénique pour les gays, où on va passer de la politique de l'autruche, où on va dire le discours officiel, non, non, allez-y, continuez, il n'y a pas de risque, à, bon, mais finalement, on va peut-être faire gaffe. Voilà, et ça va tout changer. Les années suivantes, là, il faudra regarder la vie en face.
Et le journal Guépier, finalement, a oscillé entre ces deux tendances, la politique de l'autruche et puis...
Le journal Guépier a véritablement été dans la politique de l'autruche. Donc, c'est ce que leur reproche... Enfin, ça paraît comme ça, Martel. Pour autant, là aussi, c'est ce que je disais quand on faisait l'émission sur 1983 sur les politiques. Il faut voir que à l'époque, personne ne savait rien sur le sida. C'est d'ailleurs en 84 qu'on va découvrir le virus du sida et que va d'ailleurs commencer la guerre entre le professeur Gallo aux États-Unis et le professeur Montagnier en France à l'Institut Pasteur pour savoir qui est le père de la découverte du virus. Voilà, les premières découvertes scientifiques arrivent en 84. Avant, on est dans le flou total. On voit qu'il y a un problème. On n'anticipe pas qu'il va exploser comme il est en train de commencer à exploser, mais on sait rien du tout. On sait même pas si c'est un virus. On ne sait pas. Voilà. Donc, quand on se remet dans le contexte de l'époque. Personnellement, je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de juger. On peut voir les choses objectivement, mais personne n'était en mesure d'anticiper ce que ça allait devenir. Donc effectivement, les discours sont aberrants, mais c'est à relativiser.
Eh bien, merci Thomas, et nous nous retrouvons la prochaine fois pour la chronique de l'année 1985.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Pluriel gay. Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Ouais, ça passe vite, le temps passe tellement vite. C'était quoi qu'on a entendu, ma petite Lolo ?
C'était Hercules and Love Affair.
Great.
Le titre, Raise Me Up.
D'accord.
Je me souvenais plus.
Avec Anthony Egarty, d'Anthony and the Johnson, au chant.
Ah, mais il y a encore ?
Il y a, bah, là, en tout cas, il y était.
Là, il... Ah oui, là, pardon, oui. Voix, oui. Mais il est, maintenant, il intervient ponctuellement, il est plus.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui, oui. Mais je crois qu'il a toujours été un peu guest ouais, récurrent, mais je ne sais pas si membre... je crois pas qu'il soit membre officiel du groupe.
Je ne crois pas, non, Monsieur Vallée.
Très bien. Donc, pour revenir à Hétéroclite, on parlait donc d'outing.
Oui,
Florian,
mais en fait,
Philippot.
Excuse-moi,
oui,
je te coupe.
Ah.
Mais parce que j'ai la tête comme une passoire. En fait, je te dis pourquoi j'ai choisi cette chanson.
Ah oui.
Je vous dis. Parce qu'en fait, j'ai lu un article sur le site d'Hétéroclite, écrit par toi, Romain.
Sur Hercules
Looking, non, sur Looking.
Looking, non, c'est Didier.
Ah. C'est
Didier, ouais.
Voilà.
Il y a un article dans...
Et donc, de la série donc Looking qui sort en DVD bientôt.
La saison 1 sort en DVD, est sortie le mois dernier, et la saison 2 est actuellement diffusée sur OCS.
Voilà, parce que c'est un peu le nouveau
qui
phénomène.
Qui diffuse des
gay.
Séries de HBO en 24 heures de décalage par rapport aux États-Unis.
Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, série branchouille gay, je me suis dit, il doit y avoir des bonnes petites chansons dans la soundtrack. Et je ne me suis pas trompée. Et voilà.
Moi, j'ai toujours pas regardé cette série, c'est un peu la honte, quoi.
T'as pas regardé Looking ?
Non, je suis rédacteur en chef d'un magazine gay, je n'ai pas vu Looking. C'est un peu... Jetez-moi des pierres, quoi.
Il se passe pas grand-chose, en fait, dans Looking. C'est juste, on regarde
oui, c'est
des
ce
gens
que Didier,
qui des beaux
qui se lèvent le matin, qui mangent, qui discutent entre eux, qui n'aboutissent à rien, en fait, dans leur vie, finalement. Ils passent à côté
comme
de
nous,
tout.
Finalement. En résumé.
Et puis qu'ils se couchent le soir, voilà, c'est tout.
Il y a des scènes de fesses, au moins ?
Oui, un peu, mais non, c'est
même
soft. Hein. Non, non, c'est
oh,
très
punaise.
Soft, ouais.
Oh, la loose.
Ouais. En fait, c'est la vie banale de gens de San Francisco qui ont la particularité d'être gays, quoi. Mais
donc c'est pas le L-word gay, parce que dans L-word il y a des scènes de fesses. Hein.
Ah ben bah, hein. oui non là c'est soft, hein, ça reste très soft.
C'est
ouais.
Gentil.
Puis ils ont des tristesse. Problèmes existentiels, des problèmes de cœur,
de barbe.
comment entretenir sa barbe. Voilà, on fait pas une très bonne pub. Hein.
Tout ça c'est Looking, non, mais c'est ça vaut le coup. Enfin, faut regarder. Puis chaque épisode dure 26 minutes, donc on n'a pas le temps quand même de sombrer dans le sommeil en 26 minutes. Quoique. Alors, outing, l'outing de Florian Philippot. C'était pas vraiment un outing dans Closer.
Non.
Hein, c'est ce que on avait dit déjà. Le mois dernier, on avait commencé à évoquer le problème. Enfin, le problème.
La question
pourquoi c'est pas
anecdote.
Vraiment un outing ?
Parce qu'un outing, Laurence...
Ah oui, pardon,
c'est un... Tu me démarres,
poser la même question. Non, mais c'est bien de remettre un petit peu ça sur la...
Piqûre de rappel pour les auditeurs qui n'avaient pas suivi.
Tête passoire.
Un outing, donc, c'est une révélation, c'est un acte militant. C'est-à-dire que l'outing est effectué par des gens qui veulent dénoncer l'homophobie et dénoncer le double discours de personnalités publiques qui, par leurs propos, par leur action ou par leur inaction, font le jeu de l'homophobie. Mmh. Et plus particulièrement du sida, puisque l'outing est apparu dans les années 80 et est indissociable en fait, de la crise du sida qui apparaît à cette période. Donc, l'outing a été inventé par des militants d'ACT UP à New York. Ce que j'explique un peu dans l'article, qui ont fait le constat que l'une des raisons pour lesquelles ils prêchaient un peu dans le désert et qu'ils n'étaient pas assez entendus, notamment par l'administration Reagan, c'était que c'était le stigmate tout simplement qui était encore lié à l'homosexualité. Le sida, c'était une maladie de PD, de drogués, de noirs, enfin électoralement, c'était pas du tout porteur, quoi. Donc ils ont fait le constat qu'il fallait que la vision de l'homosexualité de l'Américain lambda change radicalement. Et qu'il n'y aurait que comme ça qu'il pourrait avancer dans la lutte contre le sida. Et que pour ça, pour faire avancer les mentalités, ils avaient besoin du soutien des personnalités publiques. Hein, on sait comment ça marche aux États-Unis. Et que malheureusement, les personnalités publiques homosexuelles à l'époque étaient quasiment toutes dans le placard. Donc l'idée, c'est aussi de mettre les gens face à leurs responsabilités, de dire toi, tu es gay, on te tend des micros, on te tend des caméras. Profites-en pour parler de ce qui se passe aux mecs avec qui tu baises secrètement, quoi.
Mmh.
Mais là, du coup,
la closer, c'est pas vraiment un outing.
Voilà, et c'est ce que je dis. Pourquoi Philippot, c'est pas un outing, c'est que closer est pas dans une démarche militante. Closer est dans une démarche qui consiste à vendre du papier. Donc faut pas tout mélanger. C'est ce que je dis un peu dans l'encadré.
Mais c'est quand même, excuse-moi, je te coupe, c'est quand même un outing dans le sens où il balance quelqu'un qui, au départ, tous les jours, est dans un parti qui joue le jeu de l'homophobie.
Oui, et qui est dans un placard.
Oui.
On est d'accord. Mais c'est pas, on peut appeler ça une révélation, si on veut.
Oui.
Mais voilà, il n'y a pas cette dimension militante.
Ça aide pas la cause, quoi.
Ça aide pas la cause. D'ailleurs, Closer ne cherche pas à aider la cause. Closer ne cherche même pas, je pense pas que Closer cherche à mettre des bâtons dans les roues à Philippot. Closer cherche simplement à faire vendre, quoi.
À vendre du papier, ouais.
À vendre du papier, ouais. Ce que je dis un peu dans l'encadré, c'est-à-dire que, il y a plusieurs types de révélations. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui vont révéler l'homosexualité, par exemple, d'un responsable politique, parce qu'ils sont journalistes au titre du droit à l'information. C'est par exemple ce qu'avait fait, je crois... alors, il y a un journal gratuit gay parisien en 2000 qui avait outé... Enfin, non, qui avait pas outé, justement, qui avait dévoilé l'homosexualité de Jean-Luc Romero. Il y avait le journaliste Guy Birenbaum qui avait dévoilé celle de Renaud Donnedieu de Vabre en 2003.
Renaud Donnedieu de Vabre ?
Eh oui. Mais
non,
Dieu,
sérieux,
je ne sais pas.
Ah oui.
Mais
enfin... Non, mais tu rigoles, non?
Mais non. Non, sérieux.
C'est sûr,
non,
Florence.
Ancien ministre de la, ancien ministre de la culture. Enfin, à l'époque, il n'était pas encore, mais voilà. Il y avait aussi ce petit jeune, là, vous vous rappelez, Octave Nitkowski, qui avait publié un bouquin il y a un peu plus d'un an, dans lequel il révélait l'homosexualité de Steve Briouat. Donc voilà, là, c'est fait. Là aussi, c'est pas une démarche militante. C'est pas des activistes anti-homophobie ou anti-sida. C'est des journalistes ou aspirants journalistes qui le font au nom du droit à l'information. Après, il y a la démarche effectivement un peu racoleuse façon closer. Et puis parfois, il y a des intentions qui peuvent être carrément mauvaises et homophobes. C'est-à-dire que utiliser l'homosexualité d'un adversaire politique, par exemple, pour lui nuire, ou, je cite le cas de ce magazine ougandais qui s'appelle Rolling Stone, qui a publié les noms d'une centaine d'homosexuels en 2010, avec un bandeau qui stipulait « pendez-les », quoi.
Oui, parce que dans le cadre de Closer, finalement, c'est ramener, je dirais, l'homosexualité, finalement, j'allais dire, au niveau de l'hétérosexualité, où finalement, on présente Florian Philippot, qui est son compagnon.
Oui, c'est croustillant, quoi.
Voilà.
Oui,
comme on va
oui.
présenter la maîtresse de machin, qui est connue, parce qu'on l'a chopé les seins à l'air sur une plage.
Comme Closer avait révélé la liaison de Hollande et Julie Gayet. Enfin, c'est du même tonneau, quoi.
Voilà. Et par contre, en ce qui concerne Steve Briouat, il avait porté plainte, je crois.
Oui.
Et en définitive, le tribunal de Lille, je crois, c'était.
Non, c'était à Paris.
C'était à Paris. Avait considéré que lui, en tant que personnalité publique, il n'y avait pas d'atteinte à sa vie privée. En revanche, le nom de son compagnon n'étant pas un personnage public, pouvait être, passé sous anonymat.
Oui, c'était la Cour d'appel de Paris, donc, qui avait rendu ce jugement. Estimant que Steve Briouat était effectivement une personnalité politique d'envergure nationale, il est quand même très haut placé dans l'organigramme du Front National, et que donc son homosexualité relevait finalement de qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ? Le droit du public à être informé prime sur le droit au respect de ce pan de sa vie privée. Par contre, son compagnon, qui lui est un simple conseiller régional FN en Picardie, je crois. Voilà, dont la notoriété n'excède pas les frontières de sa région. Lui, par contre, avait droit à ne pas voir son homosexualité dévoilée. Et donc, le tribunal avait tout de même condamné l'éditeur du bouquin à retirer toutes les mentions du nom du compagnon de Steve Briouat.
En définitive, ce qui est croustillant aussi, c'est que ce sont des gens de droite ou d'extrême droite. Quand ce sont des gens de droite ou d'extrême droite, puisque ils sont normalement portés dans des partis qui sont portés plutôt du côté de la force obscure, n'est-ce pas ? Donc contre l'homosexualité, LGBT, etc. Donc c'est toujours plus croustillant. Mais, et ça on l'avait dit aussi le mois dernier, finalement on se rend compte que le FN, on entendait tout à l'heure la chronique Thomas Dupuis qui rappelait... qui rappelait à l'époque
les propos de Jean-Marie Le Pen,
Le Pen sur le SIDA, voilà, qui était quand même assez horrible et homophobe. Mais on se rend compte en fait que le FN et l'homosexualité, c'est une histoire d'amour, parce que si j'ose dire, parce qu'il y avait le maire de Toulon déjà, c'est assez vieux, qui était au FN et qui avait été aussi lui outé entre guillemets. Enfin, voilà, il avait été marié, mais il avait aussi des aventures avec des jeunes gens. C'était très connu sur Toulon. Bon, après, il avait été, par contre, lui, à l'époque, il avait été, pas seulement pour ça, mais il avait été expulsé du parti, du FN. Et puis là, j'ai lu un article il y a peu de temps sur un site sur le net du coiffeur personnel de Marine Le Pen. Qui est gay, donc.
C'est très drôle, ça.
Oui, c'était amusant. Oui. Et il disait, mais moi, j'en ai assez. Il a dit, assez, il y en a marre. J'en ai marre d'être harcelé par tout le staff de Marine Le Pen. On a l'air de dire qu'il était sexuellement harcelé par, par tout le staff masculin, l'équipe proche de Marine Le Pen, laissant supposer qu'en fait, elle avait une sorte de garde thébaine, tu sais. Le thème dans l'Antiquité, c'était une armée composée d'homos, de couples d'amants. Ben, on a l'impression que Marine Le Pen est là, entourée, ceinturée d'une...
En fait, c'est la fille à PD, quoi.
C'est Marine la fille à PD par excellence. Certains même disent qu'elle-même...
Elle-même serait PD.
Serait PD, voilà.
Fais gaffe, elle va
Ça te fait rire, Bernard. Hein. Ouais. Ça te fait rire, Bernard. Ah ben.
Mais moi aussi, ça me fait rire. Voilà, enfin bref, ça c'était une petite parenthèse.
Et du coup, pour compléter un peu le dossier, on a interviewé Gwen Fauchois, qui est une ancienne vice-présidente d'ACT UP Paris. En fait, on s'est trouvé face à un dilemme, mais le concept d'outing a vraiment beaucoup de mal à traverser l'Atlantique, et il est né à New York aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en France, il y a vraiment une réfraction à importer ce concept-là. Et en France, par exemple, trouver des sociologues, des gens, des activistes qui ont travaillé sur ce concept, c'est extrêmement dur. Et en fait, les seuls vraiment en France qui ont bossé sur l'idée d'outing, c'est les gens d'ACT UP qui sont passés par ACT UP Paris.
Ouais.
C'est Didier Lestrade, par exemple, qui avait fait, qui a donné une interview il n'y a pas très longtemps aux Inroc, par exemple, pour défendre justement l'idée d'outing. Et tous les gens qui, avec lui, sont passés par ACT UP Paris, notamment Gwen Fauchois, donc, qui a été vice-présidente de l'association à la fin des années 90, qui a été membre du conseil d'administration aussi du Centre gay et lesbien de Paris. Et elle dit justement, tu disais c'est croustillant quand c'est des gens de droite ou d'extrême droite. Elle disait, elle cite... j'en arrive à penser qu'il serait plus intéressant d'outer des personnalités qui prétendent être proches, sous-entendu être proches de nous, les gays, les lesbiennes, quoi, et qui, par leur silence, participent de cette pseudo-bienveillance, de cette escroquerie intellectuelle qui, en fait, tente à nier la dimension structurelle et institutionnalisée de l'homophobie. Et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que on connaît tous des députés ou des sénateurs de gauche qui sont engagés en faveur de l'égalité des droits et qui restent dans le placard. C'est quand même une formidable contradiction. Pourquoi tu nous soutiens alors que, mais en même temps, tu te distancies de nous, tu te distancies de nous en, enfin, je veux dire, tous les, enfin, si nous on a eu le courage de faire notre coming out, pourquoi toi tu l'aurais pas, quoi? Et bon, on peut pas citer de nom, mais on sait que voilà, on a des soutiens, et leur soutien n'est pas à remettre en cause, enfin, qui nous ont soutenus au Parlement, mais qui, à côté de ça, restent dans le placard. C'est d'une hypocrisie totale, et je pense que ça ne contribue pas à faire avancer les droits LGBT en France, et bien au contraire, ça...
Bon, après, c'est vrai qu'en France, on a tendance à penser que... y a une certaine sphère qui correspond à la vie privée, une sphère qui correspond à la vie publique, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Les deux sont souvent liés. Et c'est vrai que ACT UP, par exemple, lui a importé, je dirais, en France, des méthodes qui viennent des États-Unis et qui, en France, n'ont pas toujours montré leur efficacité. Sont parfois aussi qui ont été contre-productives, parce que difficile à inscrire dans le contexte culturel français, entre guillemets. Je pense par exemple à l'occupation des églises, comme en Alsace, à Strasbourg, où ils débarquent et des banderoles en... en venant crier leur... parce que l'Église, bon, s'oppose au mariage des personnes de même sexe, certes, mais là, encore une fois, peut-être que les débats étaient un peu... Ce qui se fait aux États-Unis paraît beaucoup plus dans le cadre culturel des États-Unis que ce que ATOP a voulu transporter en France. Et je pense que... Ce que je veux dire... Écoutez-moi bien. Non, je pense qu'on a trop, peut-être, en France, voulu... calquer un peu une forme de militantisme à l'américaine qui peut-être en France n'est pas tout à fait adaptée à notre culture justement. Notamment la culture laïque dont on entend tant parler et républicaine surtout. Tu vois ce que je veux dire, Romain ?
Oui, mais cette culture laïque et républicaine, elle peut aussi avoir...
Puisque nous, on fonctionne en disant tout le monde finalement est sur un pied d'égalité.
Oui, mais elle peut aussi avoir des fondements homophobes. Enfin, il y a des gens qui se définissent comme parfaitement républicains et parfaitement laïques et qui vous expliquent qu'ils sont contre le mariage pour tous. Bah, c'était le cas, par exemple, de Jean-Pierre Chevènement, qui se veut un peu le champion en France du républicanisme et qui était contre le mariage pour tous.
Voilà. Mais c'est là où, par exemple, quand je reparle de l'action d'ACTOP dans une église à Strasbourg, c'est là où ils sont un peu à côté de la plaque. Parce que finalement, le mariage ne concerne pas l'église en France. Il s'agit bien du mariage civil. Alors que l'église se soit exprimée, ok, mais je veux dire, aller perturber une cérémonie, ça a mal été interprété par beaucoup de gens. Et alors qu'aux États-Unis, ça a beaucoup plus d'impact dans une société qui est beaucoup... moins sécularisés que nous, finalement, où la religion a beaucoup plus d'importance dans la vie des gens que chez nous. Est-ce que parfois, ils ne se trompent pas un petit peu de combat, justement, ils ne sont pas assez adaptés ? Mais bon, c'est pas, le procès d'Octobre n'est pas à faire, mais...
Je suis d'accord avec toi pour dire que effectivement, l'homophobie en France, elle n'est pas essentiellement d'origine... Enfin, pas uniquement d'origine religieuse, alors qu'aux États-Unis, c'est quand même beaucoup ça, qu'on trouve effectivement des républicains, des laïcs...
Et pour beaucoup, pour revenir en fait, au début de ton propos, l'outing, qui est aussi un phénomène... enfin, américain, on va dire, importé d'Amérique. En France, il y a beaucoup de gens qui considèrent encore que c'est un choix personnel de dire je suis homo ou pas. Tu vois, par exemple, que ça concerne... C'est comme le coming out. Pour beaucoup, on pense encore beaucoup que le coming out doit être quelque chose de très personnel. On peut pas forcer les gens à dire, faut dire à tes parents, c'est toi qui choisis.
Oui, mais c'est les mêmes qui disent que le coming out, de toute façon, ne sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est aussi cette espèce d'homophobie républicaine qui est très installée en France. Et je trouve bien justement que ACT UP, en apportant peut-être effectivement des méthodes qui sont pas franco-françaises, viennent un peu bousculer un peu ce modèle-là, sans dire que ce que font les Américains est toujours génial et que leur modèle est toujours supérieur au nôtre. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait cette confrontation de différents modèles et que en France on a peut-être tendance à se croire supérieur, notamment aux Américains dans tous les domaines. C'est bien aussi qu'ACT UP vienne rappeler que sur certains points c'est pas qu'ils sont en avance, parce que je crois pas à cette idée de progrès, mais voilà, qu'ils ont une approche qui est différente et peut-être meilleure que la nôtre.
Ben c'est vrai que Harvey Meek, après je te laisserai parler Laurence, mais Harvey Meek disait notamment que l'outing et le coming out étaient un geste politique. Pour lui, c'était plus on est nombreux à se montrer, plus on représente une force, plus on a donc du poids en tant que communauté homosexuelle. Et c'est là où il y a le point d'achoppement avec la France, où on dit non, nous ne sommes pas une société de communauté, nous sommes une république, tout le monde, et on forme un tout, on n'est pas des particuliers. Et c'est là où il y a une schizophrénie permanente en France d'ailleurs, c'est le gros problème de la société française, entre le modèle culturel anglo-saxon et notre modèle que certains accusent même d'être un modèle laïcard, on entend parler de laïcard justement, ou de dogme républicain, qui serait aussi... peu ouvert à la démocratie finalement que on dit par exemple la France est une république mais c'est pas une démocratie, c'est des choses que j'ai entendu dans les pays anglo-saxons par exemple. Mais nous on est un peu schizophrène parce qu'on est influencé par d'autres cultures et en même temps on essaye de défendre un certain modèle et les deux ça crée des points d'achoppement en France, on le voit avec la communauté musulmane notamment dont on parle au début. Laurence, tu voulais parler, mais je te laisse parler.
Ça rejoint un peu ce que tu disais au début de ton propos. Je pense qu'il y a quelque chose qui existe aux États-Unis qui n'existe pas en France et moi personnellement je trouve que c'est très dommage, c'est les lobbies, c'est le pouvoir des lobbies. Forcément, aux États-Unis, chaque communauté, c'est ce que tu disais, les communautés sont très inscrites, très marquées, très présentes. Tout le monde sait qu'il y a la communauté gay, la communauté juive, etc. etc. Et les Américains vivent très bien avec ça. Et chaque communauté peut se défendre, a le droit de se défendre et de peser dans la balance politique. Aux États-Unis, il y a vraiment, j'ai l'impression, les citoyens américains peuvent comprendre que tout est politique. En France, c'est pas le cas. En France, nous, on a encore l'impression que la politique, il y a des gens qui pensent que ça ne les concerne pas.
Ouais. Que après, c'est réservé à une caste.
Il y a beaucoup d'Américains aussi qui ne votent pas, qui ne s'engagent pas.
Oui, certes.
Ils ne sont pas forcément plus politisés que nous.
Oui, en revanche, pour finir, pas pour défendre non plus la société américaine, il y a beaucoup plus d'Américains qui sont investis dans des associations locales, des choses comme ça, dans la vie publique, beaucoup plus qu'on ne le pense.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, les gens, ils sont au courant qu'il y a des lobbies qui peuvent éventuellement défendre leurs droits ou défendre les droits de quelqu'un d'autre et peser dans la balance si, à un moment, un vote important, etc. En France, moi, je pense que ça devrait exister. C'est dommage que ça n'existe pas, qu'il n'y ait pas des lobbies. Je pense en France, c'est un gros mot.
Oui.
Et du coup, quand tu as une forme de militantisme à la ACT UP qui arrive en France, chez nous, ça fonctionne
mais
pas.
Mais c'est vrai que si je me replace quand j'étais ado, par exemple, eh bien, moi, ma référence, c'était le fait qu'il y ait une communauté gay aux États-Unis, par exemple, parce que c'était les seules images qu'on avait. Et on se disait, je suis pas seul. Il y a des mecs comme moi, et l'union fait la force. Tu vois ce que je veux dire, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que ça manque un petit peu en France encore.
C'est vrai que le modèle américain a certainement plein de défauts, mais du point de vue des minorités, il a quand même
certaines qualités.
Il a quand même certaines qualités qu'on peut pas le nier, quoi.
Des bus à Los Angeles avec des mentions en trois langues, par exemple, on verrait pas ça en France. On imaginerait très mal de l'écrit arabe, par exemple, sur les panneaux français. Qu'aux États-Unis, je suis désolé.
Surtout maintenant.
Qu'aux États-Unis, il y a à Los Angeles, il y a une grosse communauté asiatique et hispanique. On a anglais, espagnol et des idéogrammes chinois dans les bus, par exemple, ce qui serait impensable en France.
Et
leur tourne, ils veulent rendre l'antenne. Oui, mais vas-y.
Non. Simplement pour rebondir sur ce que disait Laurence, je pense qu'il y a des lobbies en France, mais que c'est pas assumé, que ça se fait de façon peut-être plus discrète, que quand on en parle, on a tout de suite cette vision très sombre, très complotiste. Et je pense que ça serait plus sain si chacun assumait. Et si on parlait des lobbies, sans imaginer qu'un lobby n'est pas forcément tout puissant, un lobby tente d'avoir une influence, il ne l'a pas forcément tout le temps. Et peut-être que cette approche-là américaine du lobby serait plus saine.
Bon, il va falloir conclure. De toute façon, Bernard est au bord de lâcher.
Bernard est parti déjà.
Il est parti.
Voilà.
On va laisser la place à Léa, qui va rentrer dans le studio. Et merci à tous d'être venus.
Merci Romain.
Merci Laurence.
Pluriel Gay.